Salut les joueurs et salut les joueuses. Nous sommes le 24 avril 2015.
Oui, déjà.
Et vous écoutez le 66e épisode de Proxy Jeux.
Et un grand merci à Yann Ménez, Jérémy, Le Durny, Alex Autrois, Vincent Vido, Vincent, Ludy Boquet, Bab, Canevan, Vincent, El Pouillou.
Je suis Jérémy.
Je suis Ève.
Je suis Olivier.
Moi, je sais pas encore.
Nous sommes en compagnie de Nicolas Baudard.
Et ah oui, puis c'est ça.
Voilà. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir tout le monde.
Et cette partie est consacrée au Do It Yourself et au jeu de rôle.
C'est ça. Et comme le Do It Yourself n'est pas encore enregistré,
eh bien, on va tout de suite les écouter.
Voilà.
À vous les studios.
Et je suis avec Johan Levé aujourd'hui. Bonjour Johan.
Salut Olivier.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Alors, à la base, c'était pour présenter La Cigale et la Fourmi.
C'est ça.
Et puis, on a une petite défection. Il y a les d'ailleurs qui ont raté en fait un mois. Donc, on va prendre la place. Et puis, bah, on va donner un petit peu la parole. Comment vas-tu, Johan?
Eh ben, ça va très bien. Donc, là, je sors d'un long week-end. Je sors des ludopathiques de chez Bruno Feduti. Donc, le lundi, je travaille pas. Donc, c'est plutôt cool.
À Étourvie, donc.
C'est ça, exactement.
Ouais, il y a une petite... quelqu'un sur Facebook qui disait que de toute façon le gratin ludique était soit au Japon, soit à Étourvie en ce moment.
Ouais, voilà.
T'as fait une petite découverte, tu veux qu'on en parle très rapidement avant de parler de toi?
Eh ben, j'ai testé pas mal de protos là-bas et c'est vrai que c'est des confirmations. Les deux jeux qui à mon avis vont faire le plus de bruit dans les mois qui vont venir, c'est Mysterium qui va sortir chez Libellude, mais ça, je pense que les gens ont déjà pu en entendre parler pour Cannes. Et puis aussi le Future Days qui a pas de nom définitif, je crois. C'est soit Quadropolis, soit City Mania et j'ai eu l'occasion de le tester. Et c'est vraiment vraiment très bien.
Alors, en deux mots, quels mécanismes sont utilisés?
Ben en fait, c'est un jeu de construction de cité, comme on en trouve déjà beaucoup, mais c'est vrai que la plupart des jeux de construction de cité, ben c'est quand même des jeux assez complexes, qui sont pas très dynamiques, et là, ben ils ont réussi à faire un truc qui est vraiment très rapide, quoi. On a des petites contraintes, faut construire sa petite ville, le jeu va très très vite, et malgré tout, il y a quand même pas mal de choix intéressants à faire, donc en fait, on a un petit plateau devant soi, il faut poser des tuiles, certaines faut les empiler, et puis il y a des conditions de scoring qui changent en fonction des partie, donc c'est plutôt très très bon et très rapide, ouais.
Ah, parfait. Tu me mets l'eau à la bouche, là.
Ouais.
Alors, pour parler un petit peu de toi, qui es-tu, Johan Levé?
Eh ben, je suis commerçant à la base, donc j'ai une boutique d'informatique depuis maintenant 18 ans, donc ça fait pas mal de temps que je fais ça. Et puis, il y a maintenant 10-15 ans peut-être, j'ai découvert le jeu, donc tout seul dans mon coin. J'ai eu la chance de tomber sur un colon de Catane dans une grande surface spécialisée. Et puis voilà, donc ça m'a mis, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, donc assez rapidement j'ai découvert tout ce qu'il y avait en jeu. Et en fait, pendant des années, j'ai joué entre amis, enfin avec mon beau-frère, avec ma femme, etc. Et puis c'est vraiment au bout d'un moment, quand ça devenait vraiment une passion dévorante, que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je regarde s'il n'y avait pas d'autres gens aussi débiles que moi. Et c'est là que j'ai découvert les Ludochrons, et puis qu'après tout est parti, parce que c'est un milieu qui a l'avantage d'être quand même assez petit, j'ai envie de dire. Les gens sont abordables, et donc après, en faisant les salons, les choses comme ça, ben, on rencontre assez rapidement les autres. Ça m'a donné envie et puis après voilà, j'ai fait Mirmes et puis maintenant je suis auteur, on va dire.
Donc Bourgoin Jalu, on parlait du deux chemins, on les a rencontrés il y a quelques temps.
Ouais, c'est ça.
Et donc Mirmes, ça c'est ton premier jeu, c'est venu comment? Enfin, est-ce que tu avais déjà dans les cartons plusieurs prototypes, comment?
Pas du tout. Alors moi vraiment, j'ai jamais créé, j'ai jamais cherché à modifier des règles ou quoi que ce soit. Moi les variantes, les extensions, c'est des trucs que je joue quasiment jamais. J'en achète des fois, mais limite maintenant je devrais arrêter parce que je joue jamais aux extensions. Mais c'est vraiment non, à force de rencontrer des auteurs, un jour je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Et puis je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai immédiatement un thème qui m'est venu à l'esprit avec des mécaniques qui collaient bien, donc je pense que j'ai eu un peu de chance et du coup Mirmes c'était vraiment mon premier proto et au bout de 2-3 semaines le jeu tournait déjà pas mal, quoi.
Comment est-ce que tu t'es mis en relation avec Istari?
En fait, je les ai rencontrés par hasard. En fait, au début, je pensais vraiment pas que mon jeu pourrait sortir, quoi. Je le faisais vraiment parce que c'était le style de jeu que j'aimais. Je prenais plaisir à le faire découvrir, à l'améliorer. Et en fait, bah, à force de le faire tourner sur les salons, bah, c'est presque des gens qui m'ont poussé à le montrer à des professionnels. Et là, je me suis rendu compte que finalement, le jeu pouvait plaire. Et puis, finalement, complètement par hasard, en faisant une semaine de jeu à l'occasion de Valmeignier, j'ai rencontré Cyril Demec là-bas, qui était là-bas aussi par hasard pour le loisir, et du coup, bah, je me suis dit quelle aubaine de pouvoir lui faire tester le jeu de gestion que j'avais créé, quoi, étant donné que j'étais plutôt fan de tous les jeux historiques, justement. J'avais vraiment, enfin, dans ma tête, c'était vraiment pour avoir un avis de professionnel. Jamais j'aurais pensé que ça pourrait lui plaire. Et puis finalement, assez rapidement, dès le début de la partie, j'ai senti qu'il accrochait, il m'a parlé de date de sortie pendant la partie, quoi. Il a même pas attendu la fin pour me dire que ça sortirait chez lui, quoi.
Ouais, c'est carrément un jeu de la gamme et ça convient parfaitement à la gamme.
Ouais, c'est du cube en bois, donc du 100% Histari. D'ailleurs, pour rigoler, le nom du proto à la base c'était Enterprise, jeu de mots avec Ant, les fourmis. Et puis dans Enterprise, j'avais mis un Y parce que pour moi c'était un jeu Histari, quoi.
Et est-ce que c'est pas un peu trop compliqué parce que la Histari Team, Histari, c'est quand même une structure, un éditeur qui va prendre le jeu et qui va le tordre et qui va en faire peut-être des modifications. Il y a des adaptations qui vont être faites du jeu. Est-ce que ça a été le cas ou alors est-ce que le jeu qu'on a aujourd'hui en boutique, c'est le jeu que toi tu leur as proposé?
Eh bien, c'est vrai que j'ai été très surpris par rapport à tout ça, parce que pareil, moi le premier, au moment où ils ont décidé de prendre le jeu, moi ce que j'ai imaginé, c'est que je leur donnais mon bébé, et que après c'était à moi d'attendre, et puis que plusieurs mois après, un jour j'allais découvrir le jeu en boutique, etc. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça, et en fait on a toujours été en relation avec essentiellement c'est Thomas Coué qui a fait le développement du jeu du côté d'Histari, et en fait, on a toujours été en relation, on s'échangeait des mails qui faisaient des dizaines de pages, et je faisais tester le jeu dans mon entourage, eux le faisaient de leur côté, et donc toutes les décisions, elles ont été prises vraiment après des discussions entre nous, et puis voilà, donc il y a certains détails que c'est eux qui ont finalement eu le dernier mot, certains détails c'était moi, mais surtout moi là où je suis très fier, c'est qu'au niveau ergonomique déjà, le jeu, ceux qui avaient joué au proto et qui après ont découvert Myrmez, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu la différence parce que on a changé des choses quand même, mais le jeu a pas tant changé que ça par rapport au proto que je leur avais montré, quoi.
Donc du hasard, un peu de hasard et beaucoup de talent en fait.
Oui, voilà, ouais. Enfin, ouais, plus de hasard que de talent à mon avis.
Alors ça c'était le premier jeu. Ensuite on a plus entendu parler de Touraine pendant un petit moment.
Ouais, pendant un ou deux ans. En fait, le truc délicat, c'est vrai que comme Myrmez était mon premier jeu, l'après Myrmez, moi ça a été du playtest à fond, quoi. J'ai fait que ça, limite même j'ai joué à aucun autre jeu pendant presque une année, quoi. Je faisais que jouer à Myrmez forcément. Et du coup, après le jour où Myrmez est sorti, ça sert plus à rien de jouer au jeu, quoi. Faut éventuellement le montrer sur les salons, des choses comme ça. Mais sinon après, moi j'avais pas de proto dans les cartons. Donc du coup ça a été un peu compliqué. Après j'ai fait quand même quelques petits prototypes, mais qui sont pas allés aussi vite que Myrmez. Donc du coup c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps avant de retrouver le chemin de l'édition. Je pense que ça a pris deux ans. Ouais.
Et avec le jeu qu'on connaît actuellement, la cigale et la fourmi, c'est ça?
Voilà, exactement.
Il n'y a rien eu entre les fourmis et les cigales?
Non. Donc
alors. Là, c'est le grand écart. On passe d'un jeu cube en bois, d'optimisation, un jeu Histari, à la gamme des jeux familiaux contes et jeux de Purple Brain.
Ouais,
alors, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce que tu as conduit à ça?
à mon avis, de toute façon, pour faire un gros jeu, il faut pas une seule mécanique. Il faut avoir 4-5 bonnes idées et puis que tout s'embrique. Il faut un thème qui colle, etc. Alors qu'un jeu plus léger, bah, c'est rien d'autre que finalement une seule mécanique qui marche un petit peu mieux. Et puis voilà. Donc après, je pense que c'est juste une volonté de l'auteur. Quoi. Il y a certains auteurs qui vont avoir besoin, comme un Stefan Feld par exemple, qui va avoir besoin de mettre 62 mécaniques dans un jeu, alors que certains, ils en font un peu moins. Et moi, ça m'a pas du tout dérangé, du coup, de faire ce jeu avec un peu moins de mécaniques, d'essayer de faire justement quelque chose d'un peu familial. À savoir qu'en plus, ça a été à la base une demande de Benoît Forget, qui est donc le patron de Purple Brain, et à la base, donc, qui m'a contacté pour parce que il a eu l'idée, comme il disait sur ses toilettes, de faire d'adapter le conte La Cigale et la Fourmi. Et puis finalement, il trouvait ça rigolo de me le demander parce que comme j'avais fait Mirmès, il trouvait que c'était un joli pied de nez. Donc du coup, il m'a contacté en me demandant si j'avais pas des idées éventuellement pour faire le jeu. Et vraiment, tout est parti de là, quoi.
Tu peux nous en parler, le décrire un petit peu, ce jeu?
Ouais. Donc en fait, le Benoît Forget avait une idée assez précise. Il voulait en fait que ce soit un jeu de collecte, et puis forcément que ce soit par rapport au conte de La Cigale et la Fourmi. Donc quand même, je pouvais pas faire ce que je voulais. Donc en fait, assez rapidement, j'ai eu l'idée de faire une petite mécanique avec des tuiles qu'on posait sur une sorte de terrain. Donc ces tuiles représentaient différents types de ressources. Et en fait, c'est des rôles qui tournent. Il va y avoir un joueur qui va jouer la fourmi, qui va envoyer ses petites fourmis sur le terrain en plaçant ses pions et en formant une chaîne de fourmis, quoi, histoire que ce soit un peu thématique. Et de l'autre côté, il y a un joueur qui va jouer la cigale et qui va essayer de deviner ce que la fourmi essaye de récupérer. Parce qu'en fait, une fois que le joueur fourmi a placé ses jetons sur le terrain, il a quatre jetons choix, parce qu'il y a quatre types de ressources dans le jeu, et il faut qu'il mette de côté un type de terrain. Et c'est en fait le type de terrain qu'il va essayer de récupérer. Donc si jamais mes fourmis passent par exemple sur deux jetons pierre et que j'avais justement choisi le jeton pierre, et ben ça voudra dire que je vais récupérer deux jetons pierre. Sauf que si jamais la cigale, lorsqu'elle choisit, décide de se mettre sur la pierre, et ben c'est elle vole intégralement la récolte du joueur fourmi et c'est elle qui récupère les jetons. Et après, donc, le jeu fonctionne avec deux modes de jeu différents, un mode automne qui est le mode simple et un mode hiver qui est le mode compliqué. Et dans le mode automne, c'est un jeu de collection, donc il va falloir réussir à accumuler le plus de jetons dans un même type de ressources. Et puis il va y avoir aussi des petits insectes qui sont présents sur les tuiles qu'il va falloir essayer d'accumuler aussi. Alors que dans le mode un peu plus expert, le mode hiver, déjà la mécanique de jeu est un peu différente, donc c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est des cartes contrats à réaliser pour gagner des points de victoire. Voilà.
Alors c'est aussi et surtout un jeu de bluff.
Un
jeu de double guessing et qui est porté par justement les contrats à la collection. Ouais. C'est-à-dire quand on voit les, en plus ça ajoute une donnée en plus de savoir sur quoi sont partis les autres. Voilà, et je trouve que c'est le jeu le plus abouti de la gamme en fait et le plus intéressant des trois. Alors je mets à part Mange-moi si tu peux qui ressemble un petit peu par ce côté bluff.
Ouais.
Et je trouve que vraiment pour moi c'est celui qui est le meilleur des trois actuellement.
D'accord, ben merci, c'est gentil. C'est vrai que on a réussi, je crois, à faire un jeu de double guessing qui soit thématique finalement, parce que il y a beaucoup de jeux abstraits de double guessing, et là c'est vraiment, c'est vraiment thématique. Et puis, il fallait, de toute façon, moi je pouvais pas faire un jeu calculatoire où on calcule tout, etc. Je récupère des ressources, je vais les dépenser, parce que là les enfants auraient eu aucune chance. Alors que là, avec cette mécanique de double guessing justement, ça peut arriver parfois qu'un enfant gagne son papa, et c'était le but de la gamme de toute façon.
Et justement, je parlais de Mange-moi si tu peux, là juste à l'instant. Est-ce que tu connaissais le jeu avant d'y avoir joué? Est-ce que c'est une inspiration, ou alors est-ce que c'est une coïncidence qu'il y ait ce rapprochement entre les deux jeux?
Non, je connaissais vraiment pas le jeu. Et alors je l'ai découvert pendant le développement de La Cigale et la Fourmi, mais je n'ai pas spécialement fait le rapprochement, non.
D'accord. Et là aussi, alors qu'est-ce qui change entre Purple Brain et Hystari? Toi, ayant pratiqué les deux éditeurs, est-ce que c'est le même travail? Est-ce qu'ils travaillent autrement? Qu'est-ce qui change?
Dans le principe, c'est un peu la même chose, quoi. C'est du playtest. Après, peut-être que dans Shepherd Brain, j'ai été un peu plus intégré dans tout le design, on va dire graphique. Alors que du côté de chez Istari, c'est vrai que c'est plus Cyril qui avait vu tout ça avec son frère. Donc voilà. Alors que moi, c'est vrai que on peut pas dire que j'ai eu mon mot à dire. On va dire que j'ai vu apparaître les illustrations une à une, alors que c'est vrai que pour Mirmes, je les ai vues un peu tardivement, mais voilà, mais sinon non, après le principe, la communication, tout ça, ça a été un peu semblable.
Ouais. Okay. Et maintenant?
Et ben maintenant, en fait, je te parlais de quelques protos que j'avais, et justement, j'ai fait un jeu, je me suis mis à jouer à Clash of Clans, en fait. Et j'ai adoré.
Attends. Ouais. Clash of Clans, le jeu sur iOS, voilà. sur téléphone, où tu dois récolter des ressources pour bâtir un petit fort et puis aller laver la gueule des autres.
C'est ça. Donc, et c'est vrai que je me suis pris de passion pour ce jeu-là, donc j'arrête pas d'y jouer, il faut que j'arrête un peu. Mais bref, du coup, ça m'a donné une idée de proto, en fait, c'est que j'ai remarqué que finalement, dans tous les jeux de gestion, lorsqu'on construit quelque chose, le temps ne rentre jamais en compte, en fait. Le bâtiment apparaît, on a payé les ressources, et puis voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un jeu, en fait, dans lequel, finalement, on a des ouvriers, qui, déjà dans le jeu, il y a un aspect contrainte géographique qui est fort, détermine les emplacements où on va pouvoir construire des bâtiments, mais surtout, lorsqu'on va utiliser un bâtiment pour construire un bâtiment, ça va demander du temps, et on va devoir envoyer son ouvrier autour d'une roue, et en fait après la roue va avancer, mais tant que l'ouvrier n'est pas à nouveau disponible, on ne peut plus faire travailler l'ouvrier, ni pour récolter des ressources, ni pour construire. Donc en fait tout est parti finalement de Clash of Clans pour l'idée de ce proto là, et donc c'était à Cannes déjà il y a un an, où je me suis dit j'allais le montrer à Istari et à Erwan, à Bombix, voilà, parce qu'en fait tout simplement j'avais adoré le style graphique et le jeu lui-même des bâtisseurs. Je trouvais, d'ailleurs j'ai appris après que Erwan avait fait les bâtisseurs avec un look qui ressemblait un peu à Clash of Clans, parce que justement il adore ce jeu là et donc moi je trouvais vraiment le jeu magnifique, et j'aurais beaucoup aimé que le jeu, que le proto sur lequel je travaillais ait ce look là donc c'est pour ça que j'étais allé voir Erwan, et puis lui du coup il a tout de suite adhéré au principe du jeu, donc voilà, du coup c'est signé chez Bombix. Par contre, étant donné que Bombix est quand même pas mal occupé, là Erwan travaille beaucoup sur Conan, il a un jeu de Bruno Catala qui doit sortir, donc je sais plus pour quand, je crois que c'est pour Essen, donc le mien arrivera après, on va dire, dans ce cas là je pense que ça va arriver en 2016.
Février, en début d'année.
Début d'année, ça paraît compliqué quand même, parce que c'est quand même un jeu assez velu, plus velu que ce que fait d'habitude Erwan quand même, c'est beaucoup plus velu qu'Abyss par exemple. Donc après le jeu que Bruno Catala a fait qui s'appelle Steamers, alors c'est pas seulement Bruno, c'est aussi Florian Sirex si je dis pas de bêtises, et est quand même assez velu aussi, donc je pense qu'il va faire un nouveau style de jeu qui sera peut-être un peu plus costaud que les autres, et donc ça sera dans cette gamme là.
Ok. Et d'autres, alors ça m'a fait penser à Tzolk'in en fait quand tu parlais de roues.
Oui, ouais.
D'autres protos, d'autres idées dont tu pourrais nous parler?
Alors j'ai rien d'autre de signé. J'ai pas mal de protos. Maintenant je dois en avoir 3-4. Et puis je les fais avancer tout doucement. Voilà. Donc c'est vrai que étant commerçant, je fais pas mal d'heures. Donc j'ai pas toujours le temps de bien les faire avancer. Mais après je préfère m'appliquer plutôt que de me presser. Donc là comme je disais, j'ai été à Itourvi. Ça m'a permis déjà de bien faire tourner Settlers, qui est le nom actuel du jeu qui va sortir chez Erwan. Mais surtout, j'ai plein d'idées pour mes autres protos. Donc là aujourd'hui, par exemple, c'était atelier Photoshop et découpage, donc ça avance doucement, mais sûrement, quoi, on va dire.
Ok. Alors, autre sujet, on en parlait cet après-midi, tu devais pas la mettre en route, c'est ton imprimante 3D.
Ouais.
Puisqu'on a un petit peu de temps, est-ce que tu veux m'en parler de l'impression 3D?
Bah oui, oui, oui. Moi, je trouve que pour alors donc il y a un peu tous les prix déjà au niveau de l'impression 3D. Moi, j'ai pris quelque chose qui était un peu haut de gamme. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais c'est autour des 2 000 euros. À mon avis, c'est pas la peine finalement. Maintenant que j'ai du recul, de peut-être prendre un truc aussi élaboré. Il y a un Kickstarter récemment qui s'est fait où l'imprimante, je sais pas s'il la vendait pas autour de 200 euros quoi. Et à mon avis, ça peut suffire pour démarrer. Et je trouve que pour le pour la création, c'est quand même utile quoi, parce que ça évite de finalement se mettre des freins à la création, au matériel, etc. Je prends l'exemple de Mirmes, je me rappelle encore quand j'ai fait le proto de Mirmes, bah j'ai tout simplement ouvert ma boîte de Kevus, ouvert la boîte de je ne sais quel jeu, de Puerto Rico, et puis j'ai pris des pions à droite, des cubes en bois, des trucs, donc finalement ça limite un peu au niveau du matériel, alors que là, par exemple pour Settlers que je suis en train de bosser, bah j'ai fait un petit mécanisme pour que la roue tourne, etc. Donc ça je l'ai imprimé en 3D. Je suis en train d'imprimer pour un collègue, pour Laurent Escoffier, comment on appelle ça, je vais y arriver, c'est le mot anglais, c'est easel, parce que je l'ai cherché sur, c'est yeah. comme les peintres, enfin bref, parce qu'il est en train de faire un jeu de dessin en fait où on dessine vraiment avec des pinceaux, et j'ai trouvé ça ingénieux, j'ai testé ça à Etourvie, et il faisait ça avec des bouts de carton assez moches, donc finalement là je vais lui imprimer des trucs en carton en imprimante 3D, donc finalement c'est difficile d'en trouver vraiment l'utilité de l'imprimante 3D, mais une fois qu'on l'a, bah, c'est vrai qu'après on peut s'amuser à imprimer des trucs, je pense que ça libère un peu la créativité.
Et est-ce que c'est pas un problème, parce que quand tu vas arriver quand t'es arrivé vers Mombix avec ton système de roues, est-ce que c'est pas un casse-tête pour l'éditeur, pour se dire bon, maintenant il va falloir que j'industrialise le process,
ouais,
et que j'adapte dans un modèle économique viable?
Et ben tu vois, j'ai un autre prototype qui est un peu en 3D, et c'est pour ça à la base que j'avais acheté une imprimante 3D. En fait, c'est un proto que j'ai appelé Dubaï, et dans lequel en fait on assemble des pièces de Tetris en hauteur, et donc c'est pour ça que j'avais acheté une imprimante 3D, pour pouvoir me constituer des pièces comme ça et pour faire tourner le jeu. Et en fait, c'est vrai que je m'étais dit bon bah ça va être compliqué quand même au niveau production, etc. Et puis à l'époque, c'était à l'époque où on travaillait un peu sur Mirmes, ou un peu après, j'avais demandé à Cyril Demec si finalement c'était une mauvaise idée de faire un jeu comme ça avec un tel matos, et en fait il m'a dit que c'était vraiment pas le problème de l'auteur, et que au contraire il fallait pas se donner de limites, et puis que après ben si de là pouvait y avoir une bonne idée qui jaillisse de tout ça, ben après c'est à l'éditeur de voir s'il arrive à en faire quelque chose, etc. Moi j'ai fait un mécanisme pour la roue, mais finalement ça pourrait être simplifié et de faire comme dans n'importe quelle roue, dans n'importe quel jeu comme Tolkien ou je ne sais quoi, je pense qu'au contraire, faut pas se limiter, et de toute façon, on voit de plus en plus d'auteurs qui maintenant, dans leur proto, ont des pièces en 3D, etc., des pions en 3D, et je pense que c'est une bonne chose, et d'ailleurs, même les cubes en bois à la Mirmes, il y a plus beaucoup de jeux maintenant qui les utilisent, quoi, la plupart du temps, on voit par exemple dans les Whis et Clark ou des trucs comme ça, bah, c'est des petits meeples avec la petite plume sur la tête, toutes les ressources, elles sont typées, les cailloux, c'est des trucs hexagonales, donc c'est vrai que finalement, ça, je pense que ça sert à rien de se limiter au niveau de tout ça, quoi.
La prise en main au niveau de l'appareil, est-ce qu'il y a besoin d'une expertise? Il faut savoir dessiner, il faut savoir...
Alors en fait, il y a énormément de modèles qu'on peut télécharger directement maintenant sur Internet. Donc ça, si on s'arrête à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, ben, il n'y a pas de problème. C'est vrai que après, à partir du moment où on veut faire quelque chose de particulier, ben, faut quand même pouvoir maîtriser un logiciel 3D, quoi. Heureusement, donc moi, j'ai la chance, je connaissais bien 3D Studio Max, qui est un logiciel super compliqué de 3D, j'en faisais à une époque. Mais finalement, maintenant, il y a des sites Internet qui permettent de modéliser des petites pièces en 3D. En fait, c'est rien que du booléen, quoi, la 3D, c'est-à-dire tu prends un cube, tu prends un cercle et tu fais une soustraction, et puis tu as ta forme. Donc après, c'est à toi de réussir avec des opérations aussi simples à faire des pièces compliquées. Mais après, voilà, si ce genre de logiciels nous font peur, c'est compliqué après d'exploiter à fond, à mon avis, une imprimante 3D, quoi.
Oui, donc il faut avoir un minimum de connaissances sur ces logiciels-là.
Ouais, mais après il y a pas mal de tutos qui apprennent à faire des pièces un peu complexes, et une fois qu'on a saisi le principe, c'est quand même à mon avis, un logiciel 3D, c'est pas plus compliqué qu'un Photoshop, quoi.
Donc tu le conseilles alors, tu conseilles de s'équiper.
Bah ouais, ouais. Après voilà, je conseille, ça sert à rien pour l'instant d'acheter une imprimante trop chère parce que ça évolue trop vite. Le gros défaut des imprimantes actuelles, c'est que la plupart il y a qu'une seule couleur. Alors à moins de changer le filament en cours d'impression, on peut avoir plusieurs couleurs, mais dans ce cas-là, ça voudra dire que ça va marcher par couche. Il faut vraiment être expert après pour réussir à colorer les zones qu'on veut. Et ça, Dominique Breton a fait ça, il est vraiment expert dans le domaine. Mais après, moi je pense que à terme, quand les grands fabricants vont se mettre dedans, on aura de l'impression en couleur, etc. Et là, ça sera vraiment le top, quoi. Pour l'instant, à mon avis, ça sert à rien d'investir trop dedans, quoi.
Et alors, autre tendance actuelle, c'est l'utilisation des devices. On parlait de Clash of Clans tout à l'heure. Alors pas, je mets là du jeu vidéo, mais l'utilisation de ces devices-là pour dans le cadre d'un jeu de société comme le World of WoW, par exemple. Ça t'attire, tu penses que ça a de l'avenir, tu penses que
récemment, c'est potentiel, donc, ou... Récemment, j'ai joué à Alchimiste qui utilise ce principe-là, donc et c'est vrai que ce serait dommage de parce qu'en fait à Alchimiste, il y a des mélanges qui doivent être faits, mais le problème c'est que d'une partie à l'autre, les mélanges sont pas identiques. Donc soit tu immobilises un joueur qui va te faire les mélanges toute la partie et donc qui va se faire chier, soit là tu as l'application en effet qui assiste le jeu. Donc dans un jeu comme Alchimiste, à mon avis, c'est vraiment une super idée et j'approuve complètement. Maintenant, après, le systématiser quand il n'y a pas vraiment une grosse valeur ajoutée comme dans Alchimie, moi je suis pas spécialement pour, quoi, parce qu'après c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui disent que c'est l'avenir, mais en fait ils essayent juste de réinventer le jeu vidéo, quoi, parce qu'au bout d'un moment tu joues sur ta tablette, etc., tu as des pions qui sont posés dessus, puis au bout d'un moment ils vont avoir l'idée d'enlever les pions, les intégrer dans l'application. On est sur un jeu vidéo, donc c'est pas, à mon avis, j'y crois pas trop, quoi. Les gens, je pense, seront attachés au matériel en carton, en bois, etc. Donc voilà.
Le fétichisme de l'objet. Et en parlant de ça, Kickstarter, ton avis, j'en profite, hein.
Ouais, tu fais bien.
Des questions. Kickstarter, pilule.
Je me méfie quand même mais après il y a toujours des projets qui sont rigolos, donc mais je fais pas trop. Par exemple, récemment j'ai pledgé, enfin c'était vraiment une valeur sûre, quoi, j'ai fait la nouvelle version de Saint-Pétersbourg. J'avais pledgé à l'époque les cubes labyrinthes, Inside the Cube, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, après je surveille, mais sans plus, quoi. Donc après, le gros problème, c'est que moi je suis commerçant, et du coup je comprends le problème des boutiques. Et pour moi, une boîte qui fait un Kickstarter, et en fait elle chinte le distributeur. Bon, ça on va dire tant pis, mais la boutique, moi ça m'embête un peu plus, et encore que le distributeur, c'est des emplois, donc c'est dommage aussi. Donc après c'est vrai que c'est l'éditeur, encore ça serait pour finalement que le prix du jeu soit beaucoup moins élevé, je dis pas, mais le plus souvent c'est des prix normaux, et dans ce cas-là c'est juste que l'éditeur se fait plus d'argent. Moi je trouve ça un peu moyen, quoi, parce que le jour où on aura coulé toutes les boutiques, et ça sera plus compliqué après de trouver des jeux, de les faire buzzer. Donc à mon avis, c'est dangereux dans ce sens-là, quoi.
Ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on n'a pas abordés et que tu voudrais, sur lesquels tu as un avis?
Pas spécialement. J'ai rien qui me vient en tête là. On a parlé déjà de pas mal de
ouais, sujets. Clairement. Ouais. Clairement. Bah écoute, Johan, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon appel.
Merci à toi.
Pour l'esquelle et la fourmi. Qui nous réjouit en famille.
Ah bah, je suis très content que ça t'ait plu. Parfait. Il y a des bons avis. Il y a des vidéos. En l'occurrence, on a eu, je sais plus le nom, mais Game Boy Geek qui a énormément vu aux États-Unis. Il a fait une vidéo et donc vraiment, il y a un seal of excellence de Dice Tower. Donc ça, j'en suis très fier. Et puis ouais, il y a pas mal de reviews en France, à l'étranger, qui se font. Et en fait, j'avais peur qu'un jeu de bluff, finalement, les gens, que ça plaise pas aux gens, parce que qu'ils aient une idée de que ce soit un jeu de hasard, etc. Mais en fait, le jeu fait que il y a toujours pour un joueur quelque chose d'intéressant à faire, et ça se voit. Et puis voilà, donc après, est-ce qu'il va prendre le risque de le faire ou pas le faire? Donc ok, des fois on peut avoir de la malchance, mais c'est un jeu qui se joue rapidement, donc au pire on en refait une, et puis voilà, quoi.
Ouais, tout à fait. Très bien, écoute, bonne continuation pour la suite, et puis à très bientôt, Johan.
Ouais, merci, à très bientôt, salut.
Au revoir.
Ah bah c'était bien.
Ah, comme toujours.
Toujours, mais là,
on en a encore
40 bonnes minutes quand même.
Ah, j'aurais même dit 56 minutes.
alors Je vais pas lancer encore un concours, on va pas faire un concours tous les mois, mais moi on m'a annoncé 40 minutes. Donc après on verra, vous verrez ouais. si c'est plus proche des 1 heure ou des 40 minutes. On verra. Par contre, on a un intervenant qui est toujours à l'heure parce que de toute façon
il enregistre presque à l'avance.
Il a toujours un numéro d'avance. C'est
Siol.
Siol, qui nous parle aujourd'hui de l'agence.
Non, ça, de Lady Blackbird. Bravo. Il nous parle de Lady Blackbird.
J'avais oublié.
Il y a 7 minutes là.
Et on l'écoute là maintenant aussi ?
Bah ouais, allez, c'est parti.
Allons-y.
Lady Blackbird fuit un mariage arrangé avec le comte Carlo. Elle a engagé un navire céleste, la chouette, pour l'emmener loin de son palais sur la terre impériale d'Elysium, vers les cieux lointains des vestiges. Ainsi, elle pourra rejoindre celui qui fut son amant secret, le roi pirate Uriah Flint. Cependant, juste avant d'atteindre Havreport, à mi-chemin, la chouette s'est fait prendre en chasse par le croiseur impérial La Main Chagrine pour avoir commis le crime de voler sous un faux pavillon. En ce moment même, Lady Blackbird, son garde du corps et l'équipage de la chouette sont placés en détention à fond de cale, alors que le capitaine du croiseur vérifie sur les ondes l'immatriculation du navire contrebandier. Ce n'est qu'une affaire de minutes avant qu'il ne découvre les mandats d'arrêt inattendus qui leur apprendront que la chouette n'appartient à personne d'autre qu'au tristement célèbre paria Cyrus Vance. Comment Lady Blackbird et ses compagnons échapperont à La Main Chagrine? Quels dangers les attendent sur le chemin? Trouveront-ils le repère du roi pirate? Et s'ils y arrivent, Uriah Flint acceptera-t-il de prendre Lady Blackbird pour épouse? Voudra-t-elle toujours de lui? Allez-y, jouez, vous trouverez les réponses. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Et voilà, c'était l'introduction du jeu de rôle Lady Blackbird. Lady Blackbird est un jeu de John Harper, traduit en français et mis à disposition par les écuries d'Ozias. En effet, sur le site de cet éditeur, vous pourrez télécharger le PDF de ce jeu d'une douzaine de pages. Le PDF contient tout ce qu'il faut pour jouer. Le pitch que j'ai cité, une esquisse de l'univers de l'aventure, les personnages pré-tirés, qui sont Lady Blackbird évidemment, Naomi Bishop, sa garde du corps, Cyrus Vance, le capitaine de la chouette, Snargle, le gobelin mécano de la chouette, Kalarkem, le second de la chouette, et évidemment, la chouette elle-même, le vaisseau de Cyrus Vance. Il y a aussi les règles de résolution qui tiennent sur une demi-page, une page pour le meneur de jeu, indiquant comment mener ce jeu et donnant des obstacles et difficultés classiques. Enfin, de nouvelles idées de clés, traits et secrets pour éventuellement créer d'autres personnages ou faire évoluer les prêt-tirés. Et le tout suffit pour jouer. Ce jeu est donc pour 1 MJ et de 3 à 5 joueurs. Si les joueurs sont moins de 5, il faudra qu'ils choisissent parmi les prêt-tirés, avec certains personnages qui sont quand même plus clés que d'autres, notamment Lady Blackbird et Cyrus Vance. Un personnage présente une description rapide résumant son rôle dans l'aventure. Par exemple, pour Lady Blackbird, noble impériale, sous couverture, elle fit un mariage arrangé pour retrouver son amant. Et va présenter aussi des informations qui sont les clés, les secrets et les traits. Les clés servent à gagner de l'expérience, et ce de deux façons possibles. La première est d'interpréter son personnage dans le sens de la clé pour gagner un XP. Par exemple, Lady Blackbird a la clé de l'imposteur. Vous avez une couverture, vous faites passer pour une roturière, enclenchez votre clé quand vous réussissez à duper quelqu'un avec votre déguisement. La seconde possibilité est de racheter la clé. Là, c'est jackpot pour 10 PX d'un coup. Par contre, la clé n'est plus utilisable par la suite. Par exemple, Cyrus Vance a la clé de l'amour caché. Vous craquez complètement sur Lady Blackbird, mais vous ne voulez pas qu'elle le sache. Enclenchez votre clé quand vous prenez une décision basée sur ce sentiment secret ou quand vous le montrez de manière indirecte. Et le rachat, abandonnez votre désir secret ou alors rendez-le public. Les XP serviront, eux, à acheter de nouvelles clés, de nouveaux traits ou encore de nouveaux secrets. Contrairement à ce qui se fait dans d'autres jeux de rôle plus classiques, les XP ne sont pas distribués uniquement à la fin du scénario, mais vu qu'en plus on est là dans le cadre d'un one-shot, ils sont distribués au fur et à mesure de l'aventure et peuvent être dépensés, pareil, dès que le joueur le souhaite. Pour vous parler des traits, je vais vous parler du système de résolution. Quand un personnage fait face à un obstacle, il doit jeter des dés à 6 faces. De base, on dispose d'un dé. On peut en ajouter un si on a un trait qui se rapporte à la résolution de cette action. Par exemple, Cyrus Vance a le trait ancien soldat impérial qui peut lui servir dans un cadre de, par exemple, une bataille. On peut aussi avoir des dés en plus si des étiquettes de ce trait peuvent se rapporter aussi à la résolution de l'action. Sur son trait ancien soldat impérial, Cyrus Vance a l'étiquette tactique, commandement, soldat, rang, connexion, carte ou navire de guerre impérial. toujours dans le cadre de la bataille, en imaginant que c'est une bataille stellaire, il peut éventuellement rajouter un dé pour la tactique, un dé pour le commandement, éventuellement un dé pour le soldat, et voire un dé pour le navire de guerre impérial, vu que c'est ce qu'il affronte. Par contre, rajouter un dé pour en utiliser l'étiquette carte semble plus dur à justifier. On lance l'ensemble des dés qu'on a réunis. Chaque résultat de 4 ou plus est un succès, et on doit obtenir autant de succès que le demande le niveau de difficulté de l'obstacle. En général, c'est 3, mais ça peut monter jusqu'à 5 pour les difficultés extrêmes. Enfin, le dernier type d'information présent sur la fiche de personnage, ce sont les secrets. Les secrets sont les actions fabuleuses que chaque personnage peut faire. Par exemple, quel Arkham a le secret des réflexes? Une fois par session, vous pouvez rejouer un test échoué en rapport avec l'agilité, la dextérité ou les réflexes. Contrairement à l'agence, qu'on vous a présenté dans le numéro précédent, Lady Blackbird est un jeu avec MJ. Ce dernier a toute une page de conseils et petits trucs pour mener le jeu. Le premier des conseils est écouter, poser des questions, ne planifiez rien. L'idée est d'écouter les joueurs, de voir vers où ils amènent l'histoire, de rebondir sur leurs propositions. Et ce, en posant des questions. Du genre, ça m'a tout l'air d'être un plan audacieux, par quoi vous commencez exactement? Un second conseil pour le MJ, c'est dites oui, trouvez des obstacles. Dire oui, c'est simplement reconnaître la compétence des personnages. Par exemple, si la scène décrit Naomi Bishop face à un garde impérial et que le joueur demande s'il réussit à le battre, la réponse est oui, elle a le trait gladiateur, avec des étiquettes comme « mon corps est une arme », il n'y a aucune raison qu'elle n'arrive pas à se débarrasser d'un garde. Par contre, il peut y avoir obstacle, si jamais ce n'est pas un garde qu'elle se doit affronter, mais une escouade complète. La page pour le meneur de jeu présente plusieurs scènes avec les obstacles associés qu'on pourrait y rencontrer. Autant d'exemples qui fournissent une inspiration sur la façon dont l'histoire va se dérouler pendant la partie. La première scène la plus logique est s'échapper du croiseur, évidemment vu que lors du pitch, on dit bien que Lady Blackbird et l'équipage de la chouette sont à fond de geôle de la main chagrine. Mais il y a d'autres types de scènes qui sont décrites et qui sont suffisamment vagues pour être placées à peu près n'importe quand et servir d'inspiration pour bien coller à l'histoire que les joueurs et le MJ vont raconter de leur côté. L'embuscade des chasseurs de primes, combattre un sorcier ou une attaque de poulpe céleste. L'histoire n'est en effet pas du tout écrite. Ça va être au cours de la partie que les joueurs et le MJ vont amener petit à petit leur histoire de Lady Blackbird. Et chaque groupe, voire chaque partie, aura ainsi une histoire nouvelle et différente. Si jamais le PDF de base ne vous suffit pas, vous avez en plus, toujours sur le site des écuries d'Ogias, un document qui s'appelle « Lady Blackbird pour les nuls ». C'est une compilation de conseils faits par des gens qui ont joué et mené ce jeu. Vous pourrez aussi trouver, toujours au même endroit, Sombre Cieux, qui est non pas la suite de Lady Blackbird, mais une autre aventure qui se déroule dans le même univers. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, jouez bien.
Merci Ciel pour cette intervention. Lady Blackbird, ça te donne envie? T'avais très envie.
Moins que d'autres chroniques qu'il y a eu avant, mais. C'est peut-être parce que déjà, enfin, faut arrêter quoi. À chaque fois que j'écoute les chroniques de Ciel, sinon j'ai envie d'avoir les jeux, mais après j'ai pas le temps d'y jouer. Donc.
Mais tu peux, t'as des enfants, faut leur faire jouer.
Ouais, mais tu sais comment ça, préparer un jeu de rôle, c'est prendre du temps quoi.
Tu te dis qu'il faut jouer au jeu que t'achètes.
Bah, dans le jeu de rôle, c'est un peu ça, ouais.
Non, mais.
On en avait déjà parlé avec Philippe.
La beauté de l'objet là.
Le fétichisme de l'objet.
Ouais, alors moi.
Toi, tu vas aller travailler chez Sans Détour. Ça sera prochaine.
Tu finis dans combien de carrés?
Il est à Toulouse.
Et alors, Toulouse, t'as pas 300 mètres carrés pour les Parisiens? Ok, pour les Parisiens, forcément, Toulouse peut faire rien.
À Bruxelles, il fait plus de 120 mètres carrés. Et voilà.
Voilà. Donc,
et alors, en fait.
115 de jeu.
Non, mais t'enlèves le zéro pour Toulouse.
Ah ouais, donc tes jeux sont à Bruxelles, c'est un peu chiant pour les sortir. Bon, moi, les beautés d'objets, je fais pas, en fait.
Tous les jeux, j'ai ramené tous mes jeux.
Non, mais
c'est pas compliqué. J'ai ramené à peu près 33 cartons, dont 32 jeux. C'est là où j'ai vu, tiens, j'ai pas beaucoup de vêtements.
Le carton pour les culottes, les 30 cartons pour les.
Moi, quand j'avais déménagé, j'avais chiffré, ouais, je parlais, j'avais plusieurs mètres cubes de jeu, ouais, mais bon. Mais après, moi, j'essaie de. Je compartiment, enfin, j'ai pas plus que tel volume pour les jeux et point.
Alors, je vais quand même répondre à ce que tu disais en disant j'ai pas le temps de préparer. Eve est témoin, on a lancé une campagne de jeux de rôle avec les enfants.
De Superclic ?
Oui.
Oui.
Et là, normalement, le week-end prochain, voilà, on va jouer. Et je ne sais absolument pas où on va.
C'est-à-dire qu'on va... Enfin, si, maintenant, je sais à peu près où on va, mais on s'assoit à table, on commence, et puis, puis on y va, quoi. Enfin, je joue comme ça au jeu de rôle, tu t'en fous. Enfin, tu fais leur faire un truc Heroic Fantasy, tu les mets dans un bois, qu'est-ce que vous faites ? On va à l'auberge, super, et puis voilà.
Et allons-y, quoi.
Bah, allons-y.
Si, si, non, mais c'est vrai, en fait, faut juste...
En avant, Guingamp, comme ils disent dans les jeunes.
C'était le nom du club de foot.
Je sais pas.
Mais le. Ouais, ouais, non, si, il faut faire comme ça. En fait.
Bah oui.
Faut juste. Faut faire fi du. Faut pas prendre de système particulier.
Si, ou... si, si, je pense qu'il y a
un truc minimum.
Faut choisir un système de résolution qui est simple.
Mais un truc comme 3-16, là, ça me plaisait bien, moi. T'as juste deux capacités terminées.
Mais c'est ça.
Mais ça résout tout, c'est parfait.
Mais dans Superclick, c'est ça. C'est ça. Ouais, t'as ouais. trois pouvoirs. Enfin.
Bon, je décroche un.
Est-ce que. Parce que Nicolas, tu joues pas au jeu de rôle.
Alors,
c'est une grosse déception pour moi pour le moment.
Tu es encore jeune, tu peux encore découvrir.
Ça peut s'arranger.
Merci, merci. Non, mais sérieux, moi j'ai vraiment envie de.
T'as
de...
jamais joué ?
J'ai eu une initiation, je pense, un truc comme ça, mais j'aurais vraiment voulu. Enfin, je voudrais vraiment avoir une table et une table de jeux de rôle et puis on y va. Après, il y a des trucs qui m'auraient fait kiffer, genre Game of Thrones ou alors dans du. Oh non, dans du Star Wars, parce que c'est un peu deux trucs que j'adore.
Et Star Wars, tu peux rattraper, hein, y a des très bons.
Les beaux livres qu'ils ont fait dernièrement, là, les beaux livres de jeux de rôle, en tout cas, ça se vendait pas
Edge.
Mal.
Edge là, actuellement, là,
je pense que c'est Edge, ouais. Avec couverture blanche, là, comme ça.
Confins de l'Empire, mais ils ont fait depuis la version R de la Rébellion. Parce qu'au fin de l'Empire, tu joues des truands, en fait.
Oui, bah après, moi, c'est moins ça, évidemment, qui va m'exciter.
Et bah, du coup, il faut attendre un petit peu. Tu as VF, maintenant, tu peux jouer les rebelles, et puis bientôt, tu pourras jouer la Force.
Voilà.
Je sais pas si après tu peux jouer à un truand rebelle qui a la force.
Et bah écoute, on sait jamais. Hein. De toute façon, on demandera à Grégory.
Globalement, les livres de règles se ressemblent énormément.
Hein. Personne qui va comprendre le privé joke de demander à Grégory, mais c'est pas grave.
Non, je sais pas.
Non, mais il me regarde depuis tout à l'heure, alors forcément.
Grégory House.
Ah.
Et bah oui, les gars, je suis avec mon environnement aussi. Non, voilà, donc pour répondre.
Le chat aussi te regarde.
Oui, j'ai pas encore trouvé de nom pour le. Avec les petits cœurs, mais j'ai pas encore trouvé de nom. Mais par contre, voilà, ça me plairait vraiment bien de faire un jeu de rôle et de.
Le chat.
On va faire un truc assez. Très con, tu vois. Attends, on va pas.
C'est de mettre tes yeux.
Marron.
On va caler les yeux. Coucou. Voilà.
Bien, donc tout ça, le jeu de rôle, t'as jamais essayé, à part
voilà,
une initiation.
Bah voilà, donc sur Toulouse, s'il y a une table.
À Toulouse, je pense qu'il y a moyen de trouver.
Dans le monde dans lequel je citais qui peut démarrer, très 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 volontiers.
Ouais, ouais moi je kiffe le jeu de rôle actuel.
Il faut que.
Faut y aller.
Faut y aller. Mais c'est compliqué aussi.
Mais non, c'est pas compliqué, machins, enfin, pas... faut arrêter de dire c'est compliqué.
Non, non, mais c'est compliqué entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas compliqué de se lancer dans le jeu de rôle, c'est juste après de dire.
C'est ça qui est compliqué.
Mais tu sais, chez nous déjà, de dire quel jeu on sort ce soir, quoi, etc. C'est déjà des fois un petit peu, faut jouer avec les
Des fois, ça nous prend une soirée de savoir quel jeu on sort.
Quel jeu on va jouer, ouais.
Ouais, bon. Ok. Donc, écoute, moi je dis il faut faire jouer les enfants, puis on peut très bien les faire jouer au jeu de rôle, il n'y a aucun problème.
Très belle conclusion.
J'étais en train de me dire, j'ai enregistré une petite chronique sur l'histoire dans le jeu de société. Je la mettrai peut-être là. On verra.
Mais c'est quoi ?
C'est pour Temporium.
Ah, et pourquoi mais c'est pour Temporium ou c'est pour Proxy?
Bah, c'est pour Temporium, rien ne se perd, rien ne se transforme, tu vois.
Oui, parce que l'épisode ne faisait qu'1h20, il fallait rajouter un petit peu.
Donc, en fonction de savoir. Alors, si les d'ailleurs ont été longs, ça sera peut-être pour le prochain numéro, sinon je vais le mettre là.
Très bien.
Voilà.
On s'écoute alors tout de suite.
C'est ça.
À tout de suite, Olivier.
Et peut-être pas, c'est la chronique de Schrödinger. Tant qu'on n'est pas avancé, elle va pas être dans le podcast.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Olivier, co-animateur du podcast Proxy Jeux, qui est un podcast dédié aux jeux de société. Avant tout, je remercie beaucoup Richard de m'avoir proposé de parler de jeux de société dans son émission. Alors, nous, on est un podcast plutôt spécialisé. Je vais essayer d'être succinct, clair, et je vais essayer de faire court. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'histoire du jeu de société, mais de l'histoire dans le jeu de société, tel qu'on peut le trouver dans le jeu de société moderne.
Alors pour ça, il faut déjà s'entendre sur ce qu'est un jeu de société et ce qu'est un jeu de société moderne. Il y a une définition qui est assez communément admise, c'est qu'un jeu de société, c'est l'invention d'une liberté dans et par une légalité. Alors pour le dire autrement, le jeu de société, c'est une action ou une activité volontaire qu'on accomplit dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse. C'est une activité qui est pourvue d'une fin en soi, accompagnée d'un sentiment de tension et de joie, et d'une conscience d'être autrement que la vie courante. Donc il y a des règles, il y a des limites, et puis il y a un but, c'est d'avoir cette tension, cette joie, et puis d'être emporté quelque part pendant un petit moment. Alors, dans notre podcast, on parle de jeux de société modernes et notamment de jeux de plateau. Le jeu de plateau, c'est une sous-famille, une sous-catégorie en fait de jeux de société. On peut citer également les jeux de figurines, les jeux de cartes, le jeu de rôle même qui est un jeu de société. Et pour vous parler de l'histoire dans le jeu de société, eh ben, il va falloir quand même que je vous parle de l'histoire du jeu de société pour comprendre comment on est arrivé d'une société où ces choses-là n'existaient pas à une société où le jeu et le jeu de société moderne est largement répandu. Le jeu de société moderne, à la base, vient du wargame. Alors même s'il a beaucoup évolué, même si c'est beaucoup diversifié ces dernières années, son histoire débute au XIXe siècle, en Prusse, sous la forme de jeux de guerre modernes. Alors à ce moment-là, ce sont des soldats de plomb. C'est un stratège prussien du nom de von Reschwitz qui a imaginé des règles pour simuler des combats entre les petits soldats sur un champ de bataille miniature, avec du sable, des herbes, des rivières, etc. La Kriegsspiel, le jeu de guerre, est né à ce moment-là. Après la guerre franco-prussienne, les Anglais inventèrent leur propre version et les wargames, donc les jeux de guerre, commencèrent à être prudemment employés par les forces armées pour former à la tactique et prévoir les résultats militaires. Et c'est en 1913 que H.G. Wells publie un ensemble de règles de ces jeux pour le grand public, pour les amateurs, dans un livre intitulé « Little Wars ». Il est considéré cet ouvrage comme la Bible des wargamers et il fut le premier à suggérer l'utilisation des figurines miniatures pour représenter des forces respectives et ajouter de la saveur et une sensation d'implication à la partie. L'ouvrage a été très populaire, mais les jeux de guerre ne décollèrent pas vraiment avant le milieu du XXe siècle. Il faut attendre en fait 1953 pour que Charles Roberts commercialise le premier wargame, donc wargame sur un plateau. Le démarrage fut assez lent, mais Roberts persévérera et créera The Avalon Hill Company, Avalon Hill Game Company, qui est maintenant bien connue, une grande société de jeux, une des plus grandes au monde. L'avantage des wargames, c'est qu'ils sont extrêmement exacts et précis, et en fait ils repartent de faits historiques. Ils permettent d'étudier les stratégies employées et d'expérimenter des scénarios qui ne se sont pas déroulés. L'inconvénient, c'est que pour jouer vraiment au wargame, il faut avoir une très grande table, de nombreuses heures disponibles et aussi de très bons yeux, car en général, il y a un nombre incalculable de petits pions qui sont utilisés. Le jeu de plateau est moins long et plus accessible que le wargame. Alors attention, les jeux dont je vais vous parler maintenant peuvent nécessiter un investissement important d'apprentissage des règles en temps, mais aussi en connaissance du jeu lui-même, parce que il faut avoir en tête la topologie du terrain, les caractéristiques des unités, les événements qui vont venir modifier l'équilibre des forces. Et comme pour un wargame, le jeu se veut plus simulationniste que ludiste. Quand j'ai commencé à réfléchir sur cette chronique, j'ai tout simplement regardé ma ludothèque. J'ai essayé de voir en fait les jeux qui avaient vraiment un thème historique et qui utilisaient vraiment l'histoire dans les mécanismes ou dans le cœur du jeu, et ceux qui se servaient uniquement du thème comme d'un emballage, comme d'un background, et même on en est parfois très très loin. C'est un peu la règle actuellement dans le jeu de société, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui ont des mécaniques qui sont huilées, ça c'est un héritage du jeu de société allemand, et qui malheureusement n'ont d'historique que leur titre, par exemple Louis XIV, Tigre Euphrate. Alors même là, si là on est plus sur de la géographie, on parle d'une époque en particulier, de Shogun.
là, il faut peut-être que je fasse une aparté. C'est peut-être le problème du jeu société versus le jeu éducatif. On ne joue pas pour apprendre en général. C'est-à-dire que on joue pour l'interaction sociale, pour la compétition, pour se détendre, mais pas pour apprendre. Les jeux de plateau modernes n'ont pas une vocation à être vecteur d'apprentissage. Et c'est pour ça que on trouve très très peu en fait qui s'appuient ou développent des morceaux de notre histoire. Alors je dis ça, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Il y a quand même toute une partie de ces jeux qui se sont spécialisés dans ce genre de choses. Alors dans les jeux de société modernes, on en trouve au moins deux, et dont un a été cité par Richard lors d'une dernière émission, c'est Timeline. Timeline nous demande de classer des inventions dans l'ordre de leur découverte. Et puis Lewis et Clark, et alors Lewis et Clark, c'est un jeu d'élus de notes qui est assez particulier, c'est un jeu de course, mais qui reprend et qui retrace en fait l'expédition de Lewis et Clark d'est en ouest des États-Unis. Alors à part ça, il n'y en a pas beaucoup, sauf qu'il y a un auteur qui est Martin Wallace, qui lui s'est spécialisé dans ce type de jeu. C'est-à-dire que il n'est pas parti d'une mécanique pour arriver sur un thème, il est parti d'un thème qui est en général un thème historique, et il a bâti les mécaniques qui allaient le mieux possible avec ce thème. C'est le cas d'un de ses premiers jeux, Prince de la Renaissance. Le jeu met en scène les 5 grosses villes d'Italie à la Renaissance et nous propose d'incarner des condottières qui vont mettre leur épée au service d'une de ces villes pour la voir prospérer le plus possible. Dans le jeu Liberté, Martin Wallace nous permet de retracer la Révolution française. Avec Edge of Steam et Brass, il nous propose de jouer dans le cadre de la Révolution industrielle en Grande-Bretagne, avec l'apparition des premières compagnies de chemin de fer et diverses industries qui ont fleuri pendant cette période-là. Avec London, il nous propose de reconstruire Londres après le grand incendie de 1666. Ce que nous propose Martin Wallace, c'est en fait de nous immerger dans une période, même si tout n'est pas exact, même si il n'y a pas de détails à foison, même si on n'est pas dans un jeu historique à proprement parler, l'histoire joue un vrai rôle et a sa vraie place dans les jeux de Martin Wallace. Un autre auteur qui utilise l'histoire pour créer des jeux, c'est Richard Borg. Richard Borg, contrairement à Martin Wallace, il n'a pas fait des jeux, il a fait un système de jeux. Et un système qui s'appelle Command and Colors. Donc Command pour les ordres et Colors pour les couleurs. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, il faut que je vous explique en quoi consiste ce système de jeu. Alors ce sont uniquement des jeux de bataille à deux joueurs. On est l'un en face de l'autre, on pose un plateau qui est découpé en trois parties. Donc un espace central et puis des ailes à droite, à gauche. On va avoir des cartes et on va avoir des unités. Ces unités, on va pouvoir les commander grâce aux cartes. Les couleurs reflètent la force des unités. Le vert représentant des unités qui sont assez faibles et assez légères. Le bleu, des troupes régulières et moyennes. Et les rouges, soit des troupes lourdes, soit des vétérans. Il est possible d'ajouter un paysage sur le plateau pour complexifier, modifier, diversifier le paysage sur lequel on va jouer. Le jeu a été décliné suivant plusieurs époques. La première, c'est l'Antiquité, avec Rome et Carthage, donc pour le jeu Command and Colors Ancients. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs extensions avec les Grecs, les Romains, les Barbares, une extension sur la guerre civile à Rome, sur la Rome impériale, sur l'armée spartiate, etc. etc. C'est pour cette précision pour vous dire à quel point d'un jeu qui est assez simple, puisqu'on a des cubes en bois qui ont une certaine quelques caractéristiques, on va pouvoir avoir une diversité et une grande richesse qui va se décliner d'extension en extension. Et en plus des troupes et des différentes armées de cette époque, le système a été décliné en différentes périodes, avec la guerre napoléonienne, avec la guerre de sécession et avec la deuxième guerre mondiale. Alors il y a eu d'autres jeux qui ont été faits à partir de ce système, qui n'ont qui sont éloignés de la réalité historique, voire même qui ont été déclinés avec de l'heroic fantasy. C'est le cas de Battlelore, qui met en scène des armées d'humains, de nains, de gobelins et de créatures fantastiques. Avec une particularité, c'est que le premier scénario de ce jeu, de Battlelore, c'est la bataille d'Azincourt. Et j'ai énormément apprécié pouvoir jouer cette bataille dans un jeu qui ne se voulait pas historique, enfin qui s'éloignait de ce cadre historique. Alors, Azincourt, puisqu'on en parle, c'est un jeu de la société GMT Games. GMT Games, c'est une société qui est un peu particulière, qui est une société qui est américaine et qui a un fonctionnement qui est à part dans le monde du jeu de société moderne. Il travaille sous forme de précommande, c'est-à-dire que il propose des jeux, ils attendent que 500 personnes les précommandent et ils lancent une production. En temps normal, quand on lance une production sur un jeu de société moderne, c'est plutôt 3000 jeux. Je vous parle pas de Monopoly, de la bonne paye, je vous parle des jeux de société un peu plus spécialisés. Eux en font à peu près ce tirage-là, mais ils attendent d'avoir les précommandes de 500 personnes, 500 joueurs, afin de les lancer. Ce sont vraiment des jeux de niche. Ça peut être Azincourt, ça peut être Custer, un jeu qui retrace les guerres indiennes. Donc je parle pas de l'Inde, je parle bien de l'Amérique du Nord. Ça peut être Flying Colors, qui est un jeu de bataille navale, qui permet, là, dans ce cas-là, de pouvoir jouer 17 scénarios historiques. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus historique. On se rapproche du wargame, où on est même à la limite dans le wargame, bien qu'on n'ait pas de figurines en plomb. Et on pourra, par exemple, rejouer la bataille de Minorque ou la bataille de Trafalgar. GMT Games est l'éditeur spécialisé dans ce genre de jeu. Leur catalogue couvre, je pense, l'ensemble des plus gros conflits ayant eu lieu. Donc si l'un d'eux vous intéresse, vous pouvez vous reporter à leur site. Et puis, on trouve chez cet éditeur un type de jeu un peu particulier. Alors là, on va revenir encore sur le mécanisme, la mécanique de jeu, et je vais vous parler du card-driven. On en a un petit peu parlé, on a un petit peu abordé ce système avec Command & Colors. Là, en l'occurrence, le Card Driven, c'est vraiment un jeu qui vous propose d'utiliser les cartes que vous avez en main pour soit déployer des unités, soit, et c'est là où on revient sur la thématique historique forte intervient, déclencher un événement qui aura une conséquence directe sur le jeu. Alors avant d'aller plus loin sur le système de jeu, je vais quand même vous éclairer un petit peu plus sur les périodes concernées. On a 1960, l'élection de John Fitzgerald Kennedy face à Nixon. On a Twilight Struggle, qui couvre la période de la guerre froide. Et puis des jeux beaucoup plus contemporains, avec Andean Abyss, c'est un jeu un peu particulier qui nous propose de revenir dans les années 70 en Colombie, 1989 Dawn of Freedom avec la chute du mur, et puis plus proche de nous Labyrinthe, War of Terror, qui nous propose d'étudier l'histoire mais vraiment moderne, très contemporaine du terrorisme. Alors pour vous expliquer un tout petit peu mieux le déroulement des choses, on est là encore dans un jeu d'affrontement, dans un jeu de prise de territoire à deux joueurs, mais dans une période qui est historiquement exacte, historiquement précise. Il est possible, à la fin, qu'on arrive à une uchronie, c'est-à-dire que l'histoire ne se déroule pas de la façon dont elle s'est déroulée. Et le jeu nous propose d'utiliser des événements qui sont vraiment déroulés comme cadre et comme moteur système de jeu. Alors, dans les cartes de Twilight Struggle, donc le jeu qui se déroule pendant la guerre froide, on a des cartes qui nous parlent, par exemple, de la crise des otages iraniens, de la Dame de Fer, bien sûr, la crise des missiles à Cuba, la baie des cochons. Et puis, le discours de Kennedy, ne vous demandez pas ce que peut faire votre pays pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors ces événements sont bien sûr classés par ordre chronologique. On peut les rencontrer ou pas, on ne va pas tous les rencontrer, mais encore une fois, ils ont un vrai impact sur le jeu, et pour le joueur, c'est on est beaucoup plus dans l'immersion, on est beaucoup plus dans la connaissance historique de ce qui s'est passé. Et des conséquences de ces événements en géopolitique et sur les conflits et le déroulement des conflits en fait mondiaux. Donc là, on est à l'apogée, au summum de l'histoire dans le jeu de société, avec Twilight Struggle, 1960, La naissance d'un président, ou des jeux comme Andean, Abyss ou Labyrinthe. C'est des jeux très particuliers, puisque même Labyrinthe 2 commence en 2010 et n'a pas de date de fin, enfin il arrive jusqu'à nos jours. Donc c'est une histoire vraiment très contemporaine. Je vous ai dit en commençant cette chronique que le jeu société, c'était du jeu de figurines, du jeu de plateau, et là on en a parlé depuis un bon quart d'heure, c'est également du jeu de rôle. Et je me suis posé la question, je ne suis pas un spécialiste du jeu de rôle, je me suis posé la question quand même de savoir si de la même façon, on pouvait retrouver des jeux de rôle qui immergeaient leurs joueurs dans une période donnée, mais avec toujours une précision historique. C'est-à-dire que je me suis demandé s'il y avait des jeux pour lesquels la période n'était pas qu'un prétexte, mais qui faisait partie vraiment des intrigues dont les protagonistes étaient, par exemple, des gens et des personnages ayant réellement existé, des événements qui auraient eu un impact sur ces jeux. C'est le cas, et je vais vous en présenter quelques-uns. Mais avant ça, je vais faire un tout petit rappel sur ce qu'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société. En général, ça ne se joue pas tout seul. Bien que, comme il y a des jeux de plateau qui peuvent se jouer en solitaire, il y a maintenant des jeux de rôle qui peuvent se jouer tout seul. On peut jouer à deux également au jeu de rôle avec ce qu'on appelle un meneur de jeu. Quelqu'un qui va connaître le scénario, la trame de l'aventure que vont vivre les joueurs, les autres joueurs qui vont participer, qui seront assis autour de la table. En général, il y a très peu de matériel pour jouer au jeu de rôle, il faut venir avec son imagination. Il y a quand même des règles, parce que c'est un jeu de société, il faut des règles, et en général, un scénario que les autres participants, les joueurs vont suivre plus ou moins. Il y a des fois des dérapages, des fois des choses un peu particulières qui peuvent se passer autour d'une table de jeu de rôle. Le premier, c'est Miles Christie, un jeu de rôle qui propose d'incarner des Templiers à l'époque des Croisades. Le contexte est historique et c'est la base du jeu qui se veut très très réaliste. Te Deum pour un massacre se déroule à l'époque des guerres de religion. Pavillon Noir, alors comme son nom l'indique, on est dans quelque chose d'un peu plus léger. C'est un jeu de rôle basé sur l'histoire de la piraterie. Il couvre 3 siècles depuis les Caraïbes jusqu'aux Indes orientales, en passant par l'Afrique et même en Europe. Dernier exemple de jeu de rôle historique, GURPS, la version ou Deuxième Guerre mondiale. C'est Steve Jackson qui est derrière ce jeu, bien connu pour les livres dont vous êtes le héros. Là, il a un parti pris d'être très précis, très historique, et c'était un parti pris qui était assez courageux à une époque où c'était dans les années 70-80, où l'histoire était encore fraîche. A priori, l'époque a été très bien rendue. Et le résultat est plutôt très satisfaisant pour d'un point de vue historique. Avant de conclure, je voulais vous parler d'une sorte d'ovni, de quelque chose d'un peu incroyable dans le monde du jeu de société. C'est un jeu de cartes, ou plutôt deux jeux de cartes, qui basent leur mécanique sur le deck building. Le deck building, c'est un système de jeu de cartes. On ne va pas partir avec un jeu qui est déjà fait, mais on va le créer au cours de la partie. Les cartes sont disponibles sur la table et on va pouvoir en faire l'acquisition et les mettre dans son paquet et construire son paquet de jeu en fonction des cartes qu'on aura acquis tout au long de la partie. En l'occurrence, les jeux dont je voudrais vous parler sont Barbarossa et Alalamine. Barbarossa et Alalamine sont deux grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont des batailles qui ont été conduites par l'Allemagne nazie. Le jeu, à la base, est un jeu japonais. Les cartes ont des représentations photoréalistes. Elles ont des illustrations qui rappellent les illustrations de champs de bataille, de blindés, forces de support, et collent complètement avec le thème de la bataille. Avec la première version de ce jeu, on est vraiment sur un jeu de cartes qui a un fond historique. Et les Américains et les Français, puisque ça a été co-édité par la suite en français, en ont fait une sorte de monstre. Un jeu mêlant nazi chic et nymphette en petite tenue, et l'éloignant vraiment énormément de son fond historique. Alors ça va peut-être booster les ventes, mais en fin de compte, on perd l'essence du jeu, et je pense que ça c'est un problème de l'écosystème jeu de société au Japon, où les Japonais en fait cèdent leur licence, et donc c'est des Américains qui ont repris les licences de Barbarossa, qui l'ont repackagé, et qui ont voulu le vendre sous cette forme-là. Mais encore une fois, c'est un ovni. Pour conclure, je dirais que le jeu de société permet bel et bien d'aborder l'histoire. En général, c'est fait de façon assez superficielle. Le jeu se déroule dans un background historique, mais sans rien qui l'y relie vraiment. Mais certains jeux de société modernes nous emmènent plus loin. Un jeu de plateau Lewis et Clark, par exemple, ou le jeu de rôle Te Deum par un massacre, nous immerge dans une époque particulière, laissant la part belle au jeu, mais nous demande des informations historiquement exactes et nous donnant envie d'en savoir un peu plus sur cette période. Et enfin, pour ceux qui veulent revivre des moments historiques, il existe tout un choix de jeux pointus et encore assez accessibles chez GMT Games. J'espère que j'ai été assez digeste, j'espère que je vous ai intéressé. Si vous souhaitez découvrir encore un petit peu plus le monde du jeu de société, je donne rendez-vous sur podcast.proxyjeux.fr. Et puis en attendant, jouez bien.
Voilà, c'était la troisième
partie. Merci Olivier pour cette super chronique.
Merci. Et puis comme ça, vous m'avez pas entendu, tu veux pas me critiquer. C'est donc la troisième partie du numéro 66, la partie fourre-tout. Mais il y a des choses intéressantes. Et historique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et là, on vous fera une petite review des jeux qu'on aime. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. On dit plus si je.
Non, on me dit qu'à la fin du conclusion de la quatrième partie.
Alors, à la semaine prochaine. Et en attendant, jouez bien.